Bonjour, c'est Marion Calais. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL que je voulais consacrer aujourd'hui à ces cyberattaques qui semblent se multiplier.
Une cyberattaque en cours au centre hospitalier de Versailles dans les Yvelines. Le système informatique a été coupé, l'accueil des patients est limité, une cellule de crise est ouverte.
L'hôpital de Versailles, après celui de Corbeil-Essonne, après aussi des cyberattaques contre les conseils départementaux de Seine-et-Marne ou des Alpes-Maritimes, des entreprises ont aussi été visées, mais ces attaques sont-elles aujourd'hui réellement plus nombreuses? Que cherchent les hackers? Sommes-nous tous potentiellement des cibles en puissance? Autant de questions que je vais poser à mon invité, Damien Bancal, spécialiste en cyberintelligence et fondateur du blog Zataz.com. D'abord donc, est-ce qu'on est aujourd'hui capable de quantifier ces cyberattaques? Est-ce qu'on sait combien il y en a chaque année?
Aujourd'hui, quantifier une cyberattaque, c'est strictement impossible. C'est un peu le principe de compter le nombre de feuilles qui tombent en automne. Pourquoi ? Parce que les chiffres qu'on peut avoir, ce sont des entreprises qui ont oser déposer plainte, première chose. Ensuite, les pirates informatiques ne disent pas tout non plus, c'est une deuxième source d'information. Ils gardent des choses en secret parce que peut-être qu'il y a eu paiement, peut-être qu'ils gardent ça pour une attaque l'année prochaine. Donc avoir un chiffre véritable, c'est impossible. Les chiffres qu'on peut voir passer, on entend parler de plusieurs centaines de milliers de cyberattaques par an. J'ai juste donné un petit chiffre qui est le mien, qui est avec mon blog, c'est les attaques par rançonware, vous savez, les fameuses attaques par rançonnage. C'est plus de 5000 entreprises en Europe, francophone, ayant été cyberattaqué depuis le 1er juillet 2022.
Oui, le rançonnage qui consiste à bloquer l'accès aux ordinateurs. Pour le débloquer, une rançon est ensuite demandée par les pirates. Alors, si on n'a pas de chiffres, est-ce qu'il y a au moins une tendance? On a l'impression que les cas se multiplient. Ils sont vraiment plus nombreux aujourd'hui?
Ah bah là, elle est clairement à la hausse. Tout augmente, mais surtout le piratage informatique. On est clairement aujourd'hui, en plus, avec des possibilités de lancer des cyberattaques très simplement. Et puis surtout, on a une industrialisation de la malveillance informatique. Aujourd'hui, on a clairement des groupes de pirates informatiques qui sont des entreprises avec le patron, ses employés, des graphistes, des services après-vente. Il y a de l'argent derrière. Et aujourd'hui, en plus, ils n'ont plus peur de montrer qu'ils sont capables de réclamer des millions d'euros de rançon.
Et quand le paiement ne vient pas, comme pour l'hôpital de Corbeil-Essonne...
Des pirates ont mis leurs menaces à exécution en diffusant des informations volées au centre hospitalier de Corbeil-Essonne. Plus de 11 gigaoctets, peut-être des centaines de milliers de documents et dans le lot, potentiellement, certaines données confidentielles des patients qui ont fréquenté cet hôpital, Zoé Pallier.
Oui, comme des numéros de sécurité sociale ou encore les comptes rendus d'examens médicaux de certains patients. Les pirates les ont publiés sur leur site vendredi, date de l'ultimatum qu'ils avaient fixé pour recevoir une rançon $1 million.
Damien Bancal, en quoi ces données-là sont-elles intéressantes pour les pirates? À quoi ça leur sert?
À quoi elle sert? Mais justement, imaginez toutes les informations que vous transmettez à votre centre hospitalier, à votre médecin, à votre docteur. Numéro de téléphone, adresse mail, numéro de sécurité sociale, adresse physique, potentiellement votre profession. Très certainement l'entreprise pour qui vous travaillez. Eh bien déjà, dans ces 5 éléments-là, le pirate informatique peut faire 5 choix de commercialisation de cyberattaque. Je m'explique. Un numéro de téléphone, eh bien c'est simple, il va revendre à d'autres pirates qui sont spécialisés dans la fraude au CPF, par exemple. Bonjour, est-ce que vous avez votre compte de formation? L'adresse mail, l'adresse électronique, eh bien là c'est simple, hein. Le phishing, l'hameçonnage, eh bien il va se faire passer pour Amélie, il va se faire passer pour votre banque, etc., etc. Votre numéro de sécurité sociale est un élément aussi qui permet de dire qui vous êtes, où vous êtes, où vous êtes né, potentiellement la région, plus un élément qui peut servir, justement, on en parlait il y a quelques instants, la fraude au CPF. Après, eh bien, vous êtes journaliste, vous travaillez pour une grande radio, RTL. Oui, mais pour le pirate, c'est très intéressant. Parce que Madame X, à la base, ce n'est que Madame X avec un numéro de téléphone et une adresse mail. Non. Aujourd'hui, en plus, il a une profession. Non. En plus, il a une entreprise. Eh bien, c'est simple. Le pirate informatique et certains sont spécialisés dans le sujet. On appelle ça du social engineering. Je vais le traduire par ingénierie sociale. Eh bien, c'est simple. Il va appeler ici. Hey, bonjour. Madame X est passée chez moi hier. Je suis le docteur Y. Je dois lui transmettre, eh bien, ses documents de santé. Et je sais qu'avec la médecine du travail, tous les ans, elle passe et je souhaiterais avoir un contact. Je souhaiterais avoir son numéro de téléphone personnel. Bizarrement, le pirate informatique l'a peut-être pas en entier. Il lui manque peut-être les deux derniers chiffres. Bref. Dites-vous que toutes les données numériques, si elles servent dans le marketing, dans des grandes sociétés qui ont pignon sur rue, bah dites-vous que les pirates informatiques, ce sont aussi des supermarchés, mais eux de la malveillance. Et donc, ils ont les mêmes techniques, sauf qu'un petit détail est très important, eux, ils ne respectent pas la loi.
Donc si je vous comprends bien, ce sont des données ciblées qui les intéressent. Mais par exemple, quand on parle là de comptes rendus médicaux, qu'est-ce que ça apporte à un pirate, le résultat d'une prise de sang ou d'un examen, j'allais dire, banal ?
Ah mais la question est très pertinente, oui. Imaginez, nous avons un élu, nous avons un ministre, nous avons un grand chef d'entreprise qui passe par cet hôpital pour des analyses, quelles qu'elles soient. Tiens, il est diabétique. Tiens, il a telle maladie. Tiens, il fait des analyses pour X problème de santé. C'est de la cyberintelligence, donc c'est de l'intelligence, donc c'est de l'espionnage, donc c'est la potentialité de savoir si cette personne, on va pas la rendre malade lors d'une grande réunion importante, par exemple, d'un conseil d'administration. Tiens, il ne peut pas manger trop de sucre, ou tiens, il prend tel ou tel médicament. Donc du coup, voilà où se trouve sa pharmacie. Donc voilà potentiellement où il vit. Le pirate informatique, malheureusement, il a aussi cette fâcheuse tendance à travailler sa victime avant d'attaquer son clavier informatique. Et le social engineering, cette étude sociale de sa victime, c'est le métier du journaliste, hein, ce qui, quoi, comment, où.
Alors j'avoue que ces attaques, elles m'ont fait penser à une saison de la série Le Bureau des Légendes, dans laquelle justement un hôpital est victime d'une cyberattaque, cette série qui s'est beaucoup inspirée de cette cyberguerre justement. Et je voudrais vous faire écouter, Damien Bancal, ce petit extrait.
Et, au fait, on peut vraiment faire ça ou c'est juste un exemple?
On peut prendre le contrôle d'un frigo si on veut.
Pourquoi on ferait ça?
Pour détruire ce mode de recherche dans le labo pharmaceutique.
Un frigo, donc potentiellement piraté, ça veut dire que tout objet connecté peut être visé et pas forcément pour un labo pharmaceutique?
Tout objet qui est connecté aux internets a une potentialité de porte ouverte à un malveillant. Pourquoi? Parce que c'est de l'informatique. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir normalement un mot de passe. Pourquoi? Parce que c'est connecté, tout simplement. Je vais vous prendre, alors, Bureau des Légendes, génialissime. Je vais vous prendre un film qui, moi, m'a marqué. Pourquoi? Parce qu'il y a 25 ans. C'est Terminator 2. Alors, c'est pas du, enfin, c'est du cinéma popcorn, sauf qu'à l'époque, on a un robot qui revient du futur et on a surtout ce jeune acteur qui joue le rôle de John Connor. Il va devant un distributeur de billets. Et puis, il sort un petit ordinateur qui, à l'époque, était révolutionnaire. Moi, me faisait briller. Petit écran à cristaux liquides, voilà, c'était moche et on voyait les mots de passe s'égrener. Avant tout, il avait mis un câble dans un distributeur de billets. La scène dure 30 secondes et le pirate informatique sort l'argent et dit à son collègue « Argent facile !»«
Allez ma petite, le fric !»« Ouais, hey, ça marche !»« Et voilà !» Argent facile, allez viens.
Ça, il était il y a 25 ans, et moi j'en parlais déjà de ce genre de type de piratage, et à l'époque on me disait, c'est comme dans les films, c'est de la science-fiction. Aujourd'hui, je fais exactement la même chose, pas moi, hein, le pirate informatique fait exactement la même chose sans câble.
Donc le particulier, chacun d'entre nous, on peut aussi être victime de ce genre de piratage?
Moi, ça fait 30 ans que je suis de très très près ce milieu, ces pirates, etc. Oui, le particulier est une cible. Pourquoi? Parce que avant tout, on est des humains avec des données. On en parlait tout à l'heure, des données bancaires, mais plein d'autres informations, dont une qui est primordiale pour le pirate informatique. Un particulier est souvent un emploi. Et aujourd'hui, il suffit de regarder nos téléphones portables, nos ordinateurs, nos vies pendant les vacances. Pendant les vacances, je suis toujours moins affligé de voir le nombre de personnes qui se sentent obligées d'aller utiliser leur téléphone, leur tablette ou voire même l'ordinateur prêté par la chambre d'hôte, le camping ou l'hôtel pour juste aller checker ses mails de travail. Moi, c'est impressionnant de voir. Alors, ma femme m'autorise à me... Elle me laisse une demi-journée pendant nos vacances. C'est assez compliqué parce que je crains plus ma femme que les pirates. Mais elle me dit, bon voilà, je sais ce que tu vas faire. Et donc moi, c'est simple. Hein, je suis dans le lieu de vacances de villégiature et je demande où est l'ordinateur en accès libre pour moi, le client. Et je vais regarder cet ordinateur. Oh, mon record de découverte d'informations a été 2 secondes. Un exemple très concret, cet hiver, on était exactement au mois de février, je vais sur un ordinateur qui était mais en accès libre à un point où même des gens de l'extérieur pouvaient rentrer pour avoir accès à cet ordinateur, où je suis tombé sur plus de 3000 documents appartenant à des passagers d'un avion, où on avait le numéro de vol, on avait le QR code de la Covid, on avait le numéro de passeport. Tout va bien, Madame la Marquise, je suis en vacances. Il y a un moment aussi, on a trop confiance au numérique, au papier, et aussi on est dans la précipitation. Là, le fautif, sans le montrer du doigt, c'est clairement l'agence de voyage et les guides qui, pour donner un coup de main à leurs touristes qui veulent toujours plus et toujours plus rapidement, les guides se sont dit « Vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Donnez-moi vos passeports. » Donc déjà, on donne nos passeports à des inconnus, pardon, hein, même si c'est un guide, c'est un inconnu. Ou à a-t-il été faire les scans des passeports qui se sont retrouvés dans l'ordinateur qui, moi, Damien Bancal, voulait aller jouer à Tetris peut-être et qui, devant mes yeux, s'est retrouvé avec plus de 3000 documents qui n'ont rien à faire là.
Donc on fait comment, nous particuliers, pour se prémunir ou tenter au moins de se prémunir?
Alors il y a un grand monsieur qui est le patron de l'ANSSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, qui est monsieur Poupard, qui parle lui d'hygiène numérique. Depuis la Covid, je sais pas vous, mais moi ça m'a épaté de voir qu'on réapprend aux gens à se laver les mains, à éternuer et à se moucher. L'informatique c'est exactement pareil. Je suis en informatique, je suis en vacances, eh bien je me crée mon hygiène numérique. D'abord, est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller me connecter à mes mails de travail? Je suis pas vraiment sûr, on est d'accord. Ensuite, est-ce que j'ai vraiment besoin de me connecter au Wi-Fi partout? Je vais vous donner une clé, moi, que je pratique avec ma famille. On se crée une adresse mail qui n'est dédiée qu'aux vacances. Le premier jour des vacances, c'est cette adresse mail, donc on écrit à la famille, et quand les vacances sont terminées, cette adresse mail est détruite. Parce que, eh bien, elle a pu être volée, elle a pu être détournée, elle a juste peut-être été oubliée dans un ordinateur par mon guide, elle est peut-être dans une poubelle. Oui, mais cette adresse mail va servir à quoi? À un phishing? À un hameçonnage? Bonjour, je suis l'hôtel, vous avez aimé ce rendez-vous? Voici un fichier joint et vous avez 70% sur vos prochaines vacances. Je connais très peu de gens qui vont pas, même par curiosité, cliquer. Et je vous parle même pas de tous ces gens qui écoutent la radio, qui écoutent leur podcast préféré, tout en étant sur leur téléphone, en train de cliquer avec le pouce, tout en écoutant, tout en faisant peut-être à manger, la vaisselle, s'occuper du chien, faisant le ménage. Notre cerveau, vous savez, les pirates informatiques, l'utilisent et l'exploitent. Donc du coup, le message, on va dire « Oh, je connais, c'est le logo de ma radio. Oh, c'est RTL, oh, c'est le podcast. Oh, je clique, ah, c'est mon hôtel. Oh, mais sur quel lien j'ai cliqué ?» Trop tard.
Donc il faut être davantage vigilant.
Oui, il faut être vigilant. Ah, il faut être surtout pas paranoïaque. Alors là, sinon, on ne ferait strictement plus rien.
Non, bah oui, parce que là, je pense qu'il peut devenir paranoïaque.
Non, mais c'est de l'hygiène numérique. C'est en fait un petit... Écoutez un petit peu plus aussi les gens qui... Alors moi, c'est ma plus grosse des problématiques, hein, c'est de dire... N'ayez pas peur, il n'y a pas de paranoïa à avoir. Mais écoutez, quand on vous dit que ça existe, mettez-vous dans la tête, est-ce que je n'ai pas été impacté? Je m'explique, je suis en voiture. Moi, l'auto-école, elle m'apprend à conduire, faire une marche arrière, faire un créneau, mettre les clignotants, etc. etc. Je crève sur l'autoroute. Je vais pas m'arrêter en plein milieu de la route en disant « Bon, ben, je sais pas ce qui va se passer, tout ira bien. » Oui, enfin, le 38 tonnes qui est derrière, il va pas aimer. Sur Internet, c'est exactement pareil. Arrêtons d'aller sur des sites Internet dans lesquels je donne toujours la même adresse mail. Est-ce que j'ai besoin de donner mon numéro de téléphone? Est-ce que j'ai besoin de donner mon numéro de sécurité sociale? Nul n'est censé ignorer la loi. Allez lire un petit peu la CNIL, la Commission Nationale Informatique et des Libertés, donne énormément de documents. Le problème avec l'informatique, et les pirates l'ont bien compris, aujourd'hui, on est dans le click and play. Je clique et ça fonctionne. Les pirates font du click and hack. Je clique et je t'ai piraté.
On va tenter donc de ne pas être paranoïaque et plus rationnel peut-être un peu aussi. Merci à vous.
Merci.
Damien Bancal, spécialiste en cyberintelligence, fondateur du blog Zatas.com, de nous avoir accompagnés dans cet épisode de Focus que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter comme d'habitude sur vos plateformes d'écoute. Focus qui est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr.